Good Morning Business. Le débat.
1000 milliards de dollars de revenus, 5 milliards de passagers. Il est très loin le temps du Covid sur le transport aérien. Est-ce qu'il faut se réjouir? En tout cas, ce qu'on voit, Nicolas Dos, Jean-Marc Daniel, c'est que le flight shaming, ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle? C'est une très bonne nouvelle.
La honte de prendre l'avion.
Voilà, alors, c'était la formule de Greta. Là.
Greta Thunberg.
Et alors, c'est une très bonne nouvelle si je m'appelle Air France, Airbus ou EasyJet. Ça, c'est clair. C'est une très mauvaise nouvelle si je m'appelle Marie Toussaint ou Jean-Marc Jancovici. Chacun choisira son camp pour savoir si la nouvelle est bonne. Économiquement, c'est une bonne nouvelle. Effectivement, ça a échoué. C'est toujours la même chose. Il y a très régulièrement des sondages d'opinion qui sont faits sur, à titre personnel, considérez-vous que vous ressentez une forme de culpabilité à prendre l'avion. Alors, généralement, c'est plutôt la main sur le cœur quand on répond au sondage. Et puis, dans les données de marché, c'est pas du tout ce qu'on observe. C'est valable pour tout. Hein. Tout le monde veut du circuit court, du biosourcé, de tout ce que vous voulez. Et puis, on voit bien que ce sont les plateformes de fast fashion chinoises qui cartonnent. Donc, il y a une forme de peut-être pas de malhonnêteté, mais un peu de schizophrénie entre ce qu'on dit dans les sondages d'opinion et comment on gère sa propre existence. Ce qui m'a frappé dans les chiffres qui ont été publiés par IATA, qui sont des prévisions, hein, des prévisions 2024, c'est que clairement, ce qui tire aujourd'hui le transport aérien, c'est la clientèle Asie-Pacifique. C'est pas la clientèle européenne, qui reste importante, hein. C'est pas la clientèle américaine. Et d'ailleurs, en France, par exemple, on n'a pas retrouvé les niveaux d'avant-Covid sur les vols nationaux, les vols intérieurs. Donc ça veut dire que ça illustre bien le fait que c'est très compliqué dans une phase de transition énergétique mondiale d'aller demander à une partie de la population du monde de bien vouloir se passer des énergies fossiles bon marché, ces mêmes énergies qui ont fait les grandes heures de 100 ans de révolution industrielle occidentale. On est toujours là à regarder dans nos frontières ce qu'on est capable de faire en matière de maîtrise des gaz à effet de serre, mais le sujet est complètement planétaire. Il y a une partie de la population du monde qui n'est pas exactement dans les mêmes dispositions que nous. Elle n'a pas eu les mêmes agendas, pas eu les mêmes calendriers de développement, et les énergies fossiles font partie, à part entière, du dispositif actuel. Alors, quand on regarde les choses, le transport aérien aujourd'hui, c'est 3% des émissions de CO2 dans le monde, ça émet de l'oxyde d'azote, et il y a un phénomène, les grandes traînées de condensation participe aussi au réchauffement. Donc, est-ce que la solution, c'est dans moins de trafic ou pas? Alors, évidemment,
vous pourriez compenser vos vols.
Alors, on pourrait compenser, effectivement, avec de la fiscalité, bien sûr. En tout cas, quand on pose la question à IATA, ils considèrent que la solution, elle n'est pas dans la baisse du trafic, elle est dans les investissements. Alors, ils mettent en avant des chiffres. À horizon 2050, on sera à 65% de carburant non fossile. C'est 0,5 aujourd'hui. Oui. Donc, le problème, c'est que le carburant non fossile, il reste 2 à 3 fois plus cher que le kérosène. Il y en a, mais tu de toute façon, l'offre, effectivement, n'est pas suffisante. Et donc, la réponse n'est pas dans la baisse du trafic, disent-ils. La réponse, elle est bien sûr dans les investissements, avec au passage un petit message aux États souverains pour qu'ils apportent leur contribution aux investissements du secteur. Et donc, l'argument d'IATA sur on a retrouvé des niveaux supérieurs d'avant Covid, mais ce n'est pas pour ça qu'on est en train de détruire le monde. C'est de dire que, regardez, en face des 1000 milliards de chiffres d'affaires qu'on anticipe pour 2024, il y aura des dépenses du secteur à hauteur d'environ 930 milliards de dollars. Donc, on agit pour le transport aérien de demain. Voilà nous en sommes.
Jean-Marc, certains vous traitent de Khmer Vert dans la rédaction. Qu'est-ce que vous inspire ces chiffres?
Écoutez, je vais conforter cette opinion. C'est-à-dire, je vais... effectivement, on peut considérer, vous savez, c'est l'image de la langue d'Ésope. C'est, dans un premier temps, on dit c'est la meilleure des choses, et dans un deuxième temps, on dit c'est la pire des choses. Moi, je pense que c'est une chose qui est assez inquiétante. Nicolas l'a rappelé, sur le plan des émissions de gaz à effet de serre, c'est un des principaux contributeurs, et surtout, pas uniquement de CO2. C'est-à-dire, ça contribue au réchauffement climatique par d'autres effets que le CO2, c'est 5% du réchauffement climatique lié au fait que ça dégage, ça modifie la circulation de la vapeur d'eau et que ça dégage de l'oxyde d'azote. Mais ce qui est intéressant aussi, et c'est un véritable enjeu, c'est que 80% des gens qui vivent sur la planète à l'heure actuelle n'ont jamais pris l'avion.
Oui, ça c'est donc, vrai.
Ils ont envie de le prendre.
Ils ont envie de le prendre. Et oui. Donc on retrouve cet argument que mettait en avant Nicolas, c'est-à-dire qu'effectivement le rapport au réchauffement climatique n'est pas le même dans les pays qui ont fait la révolution industrielle et qui sont dans une phase dite post-industriel et ceux qui sont en train d'entrer dans la révolution industrielle. Et donc, face à ça, la réponse du Khmer Vert, c'est deux choses. Un, c'est sur le plan économique, le réchauffement climatique, c'est pas uniquement sur le plan écologique, c'est aussi sur le plan économique. Une externalité, c'est un problème économique et ça nuit aussi à l'économie. Et donc, deuxième élément, à partir de ce moment-là, il y a une réponse économique. La réponse économique, c'est de mettre des taxes carbone. Et donc, de mettre des taxes carbone et de convertir ces taxes carbone, quand l'IATA dit qu'il faut que les États contribue contribue aux investissements, de convertir ces taxes carbone effectivement
en investissement vert.
Alors, un des atouts du transport aérien, que bien avant l'IATA et sur lequel il faut avoir ça en lumière, c'est que le transport ferroviaire nécessite beaucoup d'investissements sur le trajet. Le transport aérien n'a pas besoin d'investissements sur le trajet, il n'a besoin d'investissements qu'au point de départ et au point d'arrivée des aéroports. Mais le ciel, qui est la voie de circulation de l'avion, il est là, il n'y aura pas besoin d'investissement. Et donc, je pense qu'un des éléments clés, c'est le carburant et surtout, effectivement, la gestion des investissements aéroportuaires, de faire en sorte que ces investissements soient les plus efficaces possibles en gestion des avions, garage des avions, utilisation des avions, réponse aux attentes des utilisateurs. Ma réponse finale, c'est taxe carbone, taxe carbone, taxe carbone.
Vous n'allez pas vous coller les mains avec de la glu sur un Airbus jusqu'à ce qu'on mette en place la taxe carbone ?
Pas encore, mais je vois qu'on y réfléchit.
En tout cas, les compagnies, c'est la technique qui mettent en avant. Airbus doit sortir un avion à hydrogène en 2035, d'après ce que l'on sait.
Merci à tous les deux.